Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Effectivement, je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser et qu'il y aura des intervenants qui seront susceptibles de répondre à vos questions, d'ordre pratique notamment. Merci à Montanea de nous accueillir. Nous reprenons donc un cycle de colloques que nous avons déjà entamé les années précédentes et qui se fait donc au moment de la parution d'un numéro de l'Alpe. Donc c'est le numéro 50 qui pour nous est ça veut. C'est pas tout à fait rien, 50 numéros, qui parle des métiers. Alors c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, on voulait parler des métiers de la montagne, et puis on s'est aperçu que c'était quand même très, très vaste et très large, raison pour laquelle nous nous sommes contentés, si je puis dire, de parler des métiers du tourisme, qui sont déjà une part très importante, évidemment. Je ne vais pas m'étendre. Je voulais simplement signaler l'absence d'un des participants qui n'a pas écrit. Alors évidemment, il y a un mélange d'auteurs de l'Alpe qui sont ici, à savoir les trois messieurs à ma gauche, Philippe Bourdeau, Claude Gardien et Daniel Léon, qui sont des auteurs dans l'Alpe. Et puis il y a quelques autres intervenants. Et il y avait donc notamment, Franck Buisson, qui est directeur du refuge de la Dent Parachée à Aussois et qui a dû s'excuser pour des raisons de santé, parce que Caroline Audibert, qui donc a écrit un article sur son expérience de gardien de refuge à la fois de Vence dans le Mercantour et d'un refuge dans le Val-Gaudemar maintenant, ne pouvait pas venir pour des raisons familiales. Donc malheureusement, nous n'entendrons pas parler du travail de gardien de refuge. C'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est assez passionnant. Et je vous réfère effectivement à l'article de Caroline Audibert dans ce numéro, ou alors je vais faire un petit peu de publicité pour les éditions Glénat. Il y a aussi un livre qui est paru il y a quelques mois, qui est mentionné d'ailleurs dans les livres, qui s'appelle Une saison en haut et qui a été écrit par un journaliste, mais qui a vécu plusieurs saisons avec un gardien de refuge à côté du lac de Gaube dans les Pyrénées, sous le Vignemal, et qui est assez intéressant parce que c'est assez léger et je pense que ça retrace assez bien tout ce qui peut se passer dans un refuge, à la fois les anecdotes un peu amusantes et la façon dont parfois les gens se conduisent bizarrement dans les refuges. Et puis aussi des choses plus quotidiennes, les tâches un peu des fois difficiles. Donc je vous recommande assez ce bouquin qui est quand même pas mal du tout, dont l'auteur s'appelle, si je dis pas de bêtises, Cyril Azouvi, et qui est donc qui est sorti, je sais plus, c'est début, fin 2009 ou début 2010. Voilà. Bon, nous allons laisser la parole donc à Philippe Bourdeau, qui est professeur à l'Institut de géographie alpine et qui va donc vous parler d'une réflexion qu'il a sur l'avenir en quelque sorte des métiers de montagne et ce qu'ils ont à dire à la société, peut-être en général aussi. Philippe, à toi.
Bonjour tout le monde, merci Dominique. Alors je me suis aperçu ce matin avec... En conversant avec une journaliste qui était là, que ce n'était pas forcément facile de passer de l'écrit à l'oral, puisque le sujet qui m'a amené à contribuer à ce numéro de l'Alpe vise à essayer de chercher à comprendre comment les métiers de la montagne nous parlent peut-être de certaines formes d'avenir du travail. On a souvent... a l'habitude de considérer qu'il se passe en montagne des choses très inhabituelles, très différentes d'ailleurs. Mais moi, j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas des convergences, s'il n'y avait pas peut-être des messages à comprendre dans les formes très atypiques des métiers de la montagne. Donc, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est pas de lire mon article, que vous avez peut-être déjà lu, mais essayer de partir de ce point de départ pour réfléchir à voix haute, en prenant des points d'appui, en faisant des comparaisons, des choses comme ça. Voilà. Alors, les métiers de la montagne et les métiers du tourisme de montagne sont un sujet qui a occupé une place assez centrale dans mon activité de chercheur, notamment au début, dans les années 85-95, hein, puisque j'ai pas mal travaillé sur les guides de haute montagne, c'était le sujet de ma thèse. Et ensuite, avec les accompagnateurs en montagne, avec les brevets d'état d'escalade. Ça m'a amené à non seulement les fréquenter, ce qui était extrêmement stimulant, extrêmement plaisant pour un chercheur, mais aussi à essayer de voir quelles étaient les relations entre ces métiers, alors qu'on avait plutôt tendance à développer des visions très, très compartimentées. Alors ça s'est prolongé ensuite avec des partenariats avec le Syndicat National des Guides, avec l'ENSA, et puis beaucoup avec des professionnels que je rencontrais à titre individuel sur mes terrains d'études en montagne. Les professionnels de la montagne ont toujours été pour moi des interlocuteurs privilégiés, parce que j'ai toujours trouvé chez eux des formes très incisives, très pénétrantes, hein, de vision des territoires et des sociétés de montagne. Donc quelque part, quand j'arrive sur un terrain, très souvent, un de mes premiers points d'accroche, de rencontre, c'est un guide, c'est un accompagnateur ou c'est un moniteur de ski. Alors, la façon dont aujourd'hui j'essaie d'aborder ces métiers est un petit peu renouvelée, hein, dans ma démarche, puisque j'essaie de croiser la question des métiers de la montagne avec des entrées, des interrogations comme celle de l'utopie, comme celle de la dissidence, des contre-cultures et des formes atypiques de créativité. Avec en filigrane un ensemble de relations souvent paradoxales entre l'économie et la culture, entre le tourisme et la politique. Hein, donc des sujets peut-être un petit peu inhabituels, mais c'est sous cet angle-là que j'essaye d'aborder aujourd'hui la question des métiers. Et ces métiers, notamment abordés sous cet angle ou de façon, je dirais, plus culturelle et territoriale, sont marqués par une actualité forte. Hein, je ne sais pas si c'est parce que j'ai contribué à ce numéro de l'Alpe que je deviens attentif à tout un tas de choses qui se passent un petit peu partout, peut-être. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a une actualité très, très vive de la question des métiers de montagne, des approches socio-économiques, avec notamment la question des saisonniers. Il y a eu un gros colloque en 2006. Hein. Je parle d'actualité au sens un peu large. Il y a aussi beaucoup d'approches culturelles. Le travail de photographie de Christian Arnal qui est présenté dans l'Alpe, ses photographies sur les trois vallées, un petit peu les coulisses des domaines skiables. Mais également les photos d'Anne-Marie Louvet qui sont exposées dans l'entrée, cette exposition double face, hein, je ne savais pas qu'on allait la trouver ici avec sa photographe. Donc, il se trouve qu'il y a quelques semaines, je suis allé à Entraigues la voir et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a aussi toute une actualité qui est notamment animée par le centre d'oralité alpine qui a été créé à Gap autour de Marc Malène et qui a produit, vous le connaissez peut-être, deux films. Le premier sur les gardiens et les gardiennes de refuge, le deuxième sur les guides de haute montagne, avec un troisième film en préparation sur les gardes de parcs nationaux. Y a là une forme d'approche très, comment est-ce qu'on pourrait dire, très, très sensible, hein, qui donne la parole aux professionnels, qui me semble extrêmement intéressant. Donc beaucoup d'actualité. Et peut-être que cette actualité, elle nous renvoie à une forme de curiosité exacerbée des sociétés urbaines contemporaines pour les métiers de la montagne. Alors, les métiers de la montagne sont là depuis le métier de guide, plus d'un siècle, celui de moniteur, plus de 50 ans, d'autres métiers depuis quelques décennies. Ils sont là depuis longtemps. Mais d'une certaine manière, ils font toujours autant rêver ou ils interpellent toujours autant les sociétés urbaines. Bien sûr, les métiers de la montagne nous interpellent par leur caractère très atypique, un brin exotique, hein, ça fait beaucoup rêver. Ça interroge aussi saisonnalité, pluriactivité, mobilité dans le temps et dans l'espace, incertitude, prise de risque économique et corporelle. Tout ça, ça façonne une forme d'altérité professionnelle, existentielle, qui est perçue comme radicale, peut-être même extrême à certains égards, par le monde d'en bas. Hein. Et moi, ce qui m'a amené à renouveler un petit peu ma réflexion sur le sujet, c'est le fait qu'au moment où on se pose beaucoup de questions sur le monde du travail, sur la société salariale, hein, que ce soit à travers la question de l'âge de la retraite, que ce soit à travers la question de la montée de formes particulières de travail, hein, à travers la dynamique autour du statut d'auto-entrepreneur, on voit, me semble-t-il, un certain nombre de mutations de fond. Alors, est-ce qu'elles sont subies, est-ce qu'elles sont choisies, un petit peu des deux, hein. C'est toute l'ambivalence de cette approche. On voit qu'une logique d'activité tend à prendre le pas sur une logique d'emploi. Et du coup, on peut se demander si les particularités les plus banales, les plus classiques des métiers de la montagne, eh bien, ne nous offrent pas un point de vue sur l'avenir de notre travail également en ville. C'était un petit peu ça le point de départ de ma réflexion, à savoir, est-ce que l'exception montagnarde est en passe de devenir une nouvelle norme? Et dans cette hypothèse, comment aborder cette question-là? Est-ce qu'il y a des précautions d'emploi? Est-ce qu'il y a des choses à entendre? Alors, on va retrouver là-dedans un thème très classique qui est celui de la montagne comme territoire d'invention, comme champ d'expérimentation, comme laboratoire, hein, en quelque sorte. Et alors, c'est à la fois un thème très classique et en même temps un thème qu'on peut renouveler d'une certaine manière en l'interrogeant à partir d'une théorie de l'innovation qui considère que l'innovation n'est pas produite dans les grands laboratoires, des grandes firmes ou des grandes entités de recherche, mais que l'innovation, elle naît aussi aux marges, dans les périphéries, et que là où il y a de fortes contraintes, eh bien, il y a une forme de stimulation de l'invention, de solutions nouvelles. Hein. Et il me semble que c'est très convergent, cette réflexion, avec les interrogations actuelles sur la créativité. On a beaucoup négligé, et peut-être beaucoup en France, des formes de créativité d'ordre culturel ou contre-culturel, qui reposent à la fois sur la réflexion sur un environnement favorable, sur des compétences et des savoir-faire, et puis sur la capacité à faire des pas de côté, à penser latéralement. Cette théorie du pas de côté, c'est vrai qu'elle contraste beaucoup avec une vision très centralisée, très surtechnologisée, organisée, programmée de la créativité, qui est peut-être celle qu'on voudrait excessivement privilégier. C'est le cas en France, en tout cas. Si on regarde quelle est la stratégie nationale d'innovation d'un pays comme le Canada, on s'aperçoit qu'elle fait beaucoup plus de place aux questions de la créativité, notamment de tous ces percolations entre le monde de la culture, le monde de l'art et le reste de la société. Alors peut-être que dans le tourisme aujourd'hui, c'est un sujet de débat, on a tendance à trop imaginer que l'innovation, bah, ce sont des plateformes technologiques, informatiques, des bornes interactives. Donc voilà, si on n'a pas de technologie embarquée, on ne peut pas innover. Mais on a peut-être un peu tendance à négliger la dimension culturelle de l'innovation, y compris dans ses aspects les plus atypiques. Alors, pour revenir au métier de la montagne, s'il y a un domaine dans lequel il me semble qu'il peut mériter l'étiquette de laboratoire d'expérimentation, c'est d'abord celui de l'assemblage d'activités. La façon dont les métiers de la montagne sont pratiqués, sont habité, vécu, renvoie très souvent à une sorte de patchwork d'activités, de statuts qui vont se déployer à l'échelle de l'année, à l'échelle de la vie. Et c'est d'autant plus intéressant que, historiquement, la pluriactivité, elle a été analysée comme un processus de transition. On nous a, les gens qui ont travaillé dans les années 70-80 sur la pluriactivité avaient tendance à privilégier l'hypothèse selon laquelle c'était parce qu'on était en train de passer d'une société montagnarde, agricole ou industrielle à une société tournée vers le tourisme qu'on avait des phénomènes de pluriactivité, mais qu'ensuite on irait vers une monoactivité d'ordre touristique. Et cette analyse qui avait beaucoup d'intérêt, hein, a été un petit peu démenti par l'histoire, parce qu'au sein même des activités touristiques, on va retrouver de la pluriactivité. Et de fait, quand on observe les trajectoires individuelles, quand on va voir les gens et qu'on leur demande, on regarde leur curriculum vitae d'une certaine manière, on les interroge là-dessus, ces trajectoires, elles façonnent des curriculum vitae d'un éclectisme souvent prodigieux, improbable, je ne sais pas comment il faut dire, hein, et sachant qu'en plus, il faudrait pouvoir lire entre les lignes du curriculum vitae, hein, c'est-à-dire rentrer un petit peu dans la façon dont tout ça s'organise, se déploie, bouge, avec des allers-retours. Alors, il y a un exemple que je cite dans l'article pour l'Alpe, qui est un exemple vécu, hein, un exemple vécu de télescopage simultané, successif, entre des activités, des statuts. La même personne peut enseigner le ski, créer un restaurant, diriger un office de tourisme, avoir à certaines périodes de sa vie des activités commerciales diverses, mais aussi vendre ponctuellement du bois, travailler à l'accueil dans un golf, faire le service dans un hôtel, et le tout avec le tout étant entrecoupé de missions d'agent de développement sur place, en montagne, ou bien dans une ville proche. Tout ça étant coupé par des périodes de formation, par des périodes d'exil, entre guillemets, temporaires, pour des raisons familiales ou professionnelles. Et alors, c'est tout ça vécu par une même personne, tout ça intégré à une vie quotidienne, à des choses qui se tissent entre des choix, des opportunités, des contraintes. Entre la culture, l'identité et l'économie. Et ce qui me semble très intéressant dans ce processus, c'est que quand on rentre un petit peu, quand on essaie de comprendre ce qui se joue dans une telle succession ou une telle simultanéité d'activités, eh bien c'est le fait qu'une personne pourra vivre des variations radicales dans la nature de son activité, activité sportive, activité manuelle, activité intellectuelle, dans les secteurs d'intervention, l'agriculture, le tourisme, la forêt, le commerce, les services, le développement local, mais aussi dans le statut professionnel. On va osciller d'un statut de salarié, indépendant, non déclaré, demandeur d'emploi, stagiaire en formation. Et puis aussi une variation, d'une certaine manière, dans la hiérarchie professionnelle, on pourrait être employeur et employé, employeur ou employé. Et puis, bien sûr, une mobilité dans l'espace. Donc ça façonne une altérité, et il me semble, qui est assez intéressante. Alors, ces allers-retours multiples sont habituels en montagne. On pourrait trouver beaucoup d'exemples qui les illustrent. Habituels en montagne, mais très largement impensables, très largement indéchiffrables de l'extérieur. Et ça, on s'en aperçoit en échangeant avec des citadins, des salariés, pour lesquels c'est un raisonnement en termes d'identité professionnelle très univoque, très stable, qui prévaut. Donc là, on peut mesurer l'écart d'une certaine manière que nous invite à comprendre les métiers de la montagne. Alors, là où la quasi-infinie diversité des combinaisons professionnelles observables en montagne est intéressante, c'est que, bien sûr, il y a de la passion et de l'inspiration qu'on va retrouver. C'est aussi ça qui nous fait rêver dans les métiers de la montagne. Mais il y a aussi de l'improvisation, de l'adaptation aux contraintes, aux circonstances. Donc le subi et le choisi se télescopent sans cesse et battent en brèche tout ce qu'on pourrait imaginer comme catégorisation ou comme théorisation un petit peu hâtive. Moi, je trouve beaucoup dans les échanges avec les professionnels de la montagne une aspiration à un travail autonome, valorisant, créatif, qui renverrait à une forme d'exigence existentielle dans les modes de vie, dans les fonctions. Avec bien souvent une forme de méfiance pour l'enrôlement du salariat. Et on voit bien comment aujourd'hui la figure très célébrée dans les médias de l'auto-entrepreneur va incarner cette aspiration au-delà de la montagne à s'affranchir du salariat. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, parce que rêve d'indépendance professionnelle, vision du travail comme étant aliénant et de la capacité d'indépendance offerte par un statut comme celui de l'auto-entrepreneur. Ça fait beaucoup rêver. Il y a eu pratiquement 500 000 déclarations d'auto-entrepreneurs en un an après sa création en janvier 2009. Au passage, on pourra remarquer qu'il y a une sorte de convergence assez inattendue à travers les débats autour de l'auto-entrepreneur. Convergence entre les positions libertaires et les positions néolibérales sur la nécessité d'abolir la dictature du salariat. On va retrouver ça à la fois dans les discours anarchisants et dans les discours les néolibéraux. Une vision critique du statut d'auto-entrepreneur consiste à montrer que ce statut vise à non seulement célébrer c'est une vision très libérale du travail, mais aussi une technique pour faire sortir du code du travail des pans entiers du salariat, hein, même si fondamentalement ça ne change pas la relation de subordination entre donneur d'ordre et prestataire de service. Alors, certains voient là une forme de nouvelle armée de réserve de l'économie libérale. Alors, Dominique, tu surveilles le temps parce que je ne sais pas bien où j'en suis. Alors, là où les métiers de la montagne, il me semble, nous montrent quelque chose, c'est le fait que, voilà, bien sûr, ils nous font rêver. À travers le statut d'auto-entrepreneur et son succès, on pourrait imaginer que peut-être en ville, on pourrait accéder à cette forme de souplesse, cette forme de ces arrangements multiples. Mais je crois que l'exemple des métiers de la montagne, et c'est ce que j'avais essayé de dire dans l'article, dans le numéro 50 de l'Alpe, l'exemple des métiers de la montagne nous montre que ce n'est pas si simple. Et que quand on veut comprendre comment fonctionnent, comment tiennent ces systèmes individuels d'activité, eh bien, il faut aussi voir que ce n'est pas seulement la capacité d'initiative individuelle, ce n'est pas seulement une capacité d'adaptation qui est en jeu. Hein, donc la mythologie entrepreneuriale, peut-être qu'on peut la relativiser un peu, même si dans les discours, elle est très présente. Parce qu'il y a un arrière-plan, il me semble, dans la réussite de ces modèles d'activité. Au-delà de l'énergie, au-delà des talents personnels qui sont sans cesse surexposés, mobilisés, il me semble que la clé de voûte du système, elle repose aussi sur un tissu de ressources, alors qu'on pourrait appeler conjugales, familiales, sociales, territoriales, hein, qui vont réguler, qui vont amortir les aléas de la vie professionnelle. Alors, c'est des choses très basiques, hein, faire son bois pour chauffer l'hiver, planter ses patates pour assurer une partie d'autonomie alimentaire, pouvoir vendre un camion de bois blanc en cas de besoin financier, construire ou rénover soi-même son habitation, son logement, ou un logement qu'on va mettre en location pour assurer un revenu fixe. Des choses très classiques, hein. C'est très banal ce que je suis en train de dire là. Mais je crois qu'il faut bien garder en tête le fait que la réussite des modèles individuels que l'on observe dans les métiers de la montagne repose aussi beaucoup sur ces facteurs-là, hein, qui vont sécuriser les parcours professionnels face aux aléas d'une saison médiocre, d'une mauvaise conjoncture économique, d'une blessure ou d'un changement d'activité. Hein, donc il y a bien des conditions de réussite et d'équilibre des systèmes d'emploi et d'activité qui reposent sur des réglages très très fins. Et on pourrait aussi prendre en compte le fait que les solidarités intergénérationnelles, elles jouent à plein et que c'est mieux, ça aide à tenir quand on dispose d'un petit capital foncier ou immobilier, même modeste, qui permet de mettre un peu de souplesse, un peu de marge de manœuvre dans le système. Ça peut être aussi, mais on n'hérite pas seulement de bouts de terrain ou de bouts de mur, on hérite aussi de réseaux relationnels, on hérite aussi de matériel éventuellement. Et tout ça, ça compte beaucoup. Donc ces héritages, même modestes, ils invitent, me semble-t-il, à relativiser l'individualisme, à le pondérer un petit peu, pour mieux comprendre comment il y a des coopérations immédiates, différées, des entraides, des coups de main, qu'ils soient monétaires ou pas. Donc peut-être que, enfin c'est même sûr, j'en suis convaincu, le couple, la famille, les voisins, la communauté, la corporation participent aussi du système. Ouais, je vais conclure. Alors, même aussi finement réglé, même aussi subtilement installé dans un contexte culturel, territorial, il me semble que la liberté à laquelle accèdent les métiers de la montagne et qui nous fait rêver, elle a un prix. Elle a un prix parce que l'individu est en première ligne dans sa capacité à tisser des réseaux, rebondir de projet en projet, valoriser ses compétences, ses expériences dans la durée, avec des corollaires hein, qui sont l'isolement, la gestion d'incertitudes, la prise de risques économiques et physiques, l'usure du corps. Hein, ça, c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte, évidemment, quand on s'en aperçoit quand on côtoie les professionnels de la montagne. Alors, là encore, ce sont des choses relativement banales, hein, mais qui tendent à montrer que il y a des choses qui sont à prendre en compte et qui se jouent. Alors, peut-être que je pourrais conclure en évoquant un travail exploratoire qu'on a conduit avec un groupe d'étudiants de l'Institut de géographie alpine dans le Vercors au cours de l'année qui s'est écoulée là, et qui visait à essayer de comprendre comment la culture professionnelle des métiers de la montagne était en train de se renouveler, était en train de s'enrichir. On a fait une trentaine d'entretiens auprès de professionnels qui avaient tous un profil très atypique. C'est-à-dire, ils étaient même encore plus atypiques que les autres professionnels de la montagne. Et atypiques à tel point qu'ils étaient souvent assez indéchiffrables, un peu marginaux, hein, même pour les acteurs traditionnels de la montagne. Et donc on s'est intéressé en quelque sorte à ces formes de dissidence, de décalage. Et ça a été extrêmement intéressant de voir que ces formes de pré-activité très classiques que l'on connaît, hein, guide l'hiver, moniteur l'été, ou pisteur et accompagnateur, etc., elles étaient en train de se faire déborder d'une certaine façon. Elles sont toujours là, mais elles sont aussi complétées de plus en plus par des formes de multi-activité qui font des passerelles entre des questions culturelles, des questions artistiques, des questions sportives, des questions de développement territorial. Donc on a trouvé des gens qui étaient archéologues, gérants de gîtes, maquettistes, qui cueillaient des plantes médicinales et qui tenaient un restaurant, qui avaient une agence de voyage spécialisée et faisaient de l'hébergement, d'autres qui développaient des outils pédagogiques tournés vers l'environnement en même temps qu'ils faisaient de l'encadrement sportif, etc. Donc une forme de décloisonnement très très fort des catégories. Et pas seulement des catégories d'activités professionnelles, mais aussi des cloisonnements entre qu'est-ce que c'est que le professionnel, qu'est-ce que c'est que l'amateur, qu'est-ce que c'est que le citoyen. Un bon nombre de ces professionnels qu'on a rencontrés se considèrent comme engagés dans un projet de vie et aussi un projet citoyen tourné vers l'éducation à l'environnement, l'humanitaire, l'intervention dans un territoire. Donc là, il y a une forme de débordement des cadres, de changement des codes. Qui nous a semblé extrêmement intéressante. Et on rejoint là des réflexions qui ont cours au-delà de la montagne, hein, sur la notion de créatif culturel, notamment. Et ça me semble extrêmement intéressant. Donc moi, je pense que c'est une invitation, hein, je pense qu'il faut creuser, faut creuser l'affaire, essayer de comprendre comment il y a des jeu d'échange entre ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut, dans les modèles d'activité. Il me semble qu'au moment où on a ces interrogations inquiètes pour une partie d'entre nous, réjouies pour une autre partie d'entre nous, mais c'est peut-être en nous-mêmes qu'il y a cette inquiétude et cette joie peut-être, hein, l'idée que les mutations du travail nous incitent à aller chercher du côté des métiers de la montagne, hein, même si on ne peut pas encore considérer que le salariat est terminé. Les statistiques nous disent plutôt l'inverse, hein, puisque avec la diminution du nombre d'exploitants agricoles à l'échelle des 50 dernières années, le nombre de travailleurs indépendants a beaucoup baissé, même s'il remonte sous d'autres formes sur la période récente. Voilà. Bref, est-ce qu'on sera tous multi-actifs demain ? Ça, je ne suis pas capable, Madame Villamy, de vous le dire. Mais si cette interrogation ne nous amène pas simplement à nous adapter à une crise, je crois qu'il y a peut-être une perspective de nous réconcilier avec nos propres altérités, hein, manuelles, intellectuelles, artistiques, et que les métiers de la montagne, dans leur forme traditionnelle ou dans leur forme nouvelle, nous donnent matière à réflexion. Merci de votre attention.
Bon, et bien voilà de quoi réfléchir et donner peut-être à tous ces jeunes des envies de créativité. Mais alors, vous oubliez les 35 heures, quoi. A priori, là, c'est mal parti. Mais je me fais aussi la réflexion qu'en fait, il semblerait que la montagne, quand même, et c'est quelque chose dont on a souvent parlé dans l'Alpe, a toujours été un peu une terre de, si ce n'est vraiment de dissidence, mais un peu de libertaire, justement. Parce que quand on doit faire avec les contraintes et qu'on est aussi, je pense aussi, enfin, c'est peut-être une discussion qu'on pourra avoir plus tard, par rapport à ce désir un petit peu justement peut-être de s'évader un petit peu des contraintes étatiques, etc. Et donc ce côté un peu on vit dans notre coin, on fait avec ce qu'on a, on se débrouille, on organise nos propres réseaux, ce qui était tout à fait le cas d'ailleurs dans l'immigration ancienne. Et c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'on était rentré un petit peu dans le rang peut-être, et puis qu'on en ressort et qu'on reprend que les montagnards reprennent peut-être ces habitudes libertaires, contre-culturelles, et ce qui est plutôt une bonne chose finalement dans une période actuelle un petit peu tristounette. Donc l'intervenant suivant, Claude Gardien, est quelque part un exemple de ces pluriactivité, puisque Claude est un guide, je ne vais pas dire un vieux guide, il va m'en vouloir, mais c'est un guide depuis très longtemps, alors qu'il n'était pas, en plus il ne vient pas du tout de la montagne. Il s'est retrouvé guide un jour comme ça parce qu'il venait en montagne, il a fait un peu, il a été aussi pisteur, enfin voilà, il est passé un peu par arriver de là depuis, voilà, découvrir la montagne, tomber amoureux de la montagne, en faire son métier. Et puis un jour, moi je connais Claude depuis très longtemps, un jour il est arrivé, je travaillais à ce moment-là à la magazine Vertical, il est arrivé à Vertical pour faire la chronique des voies ouvertes, il sortait un bouquin à ce moment-là, et puis petit à petit, eh bien, il s'est trouvé que Claude avait des capacités d'écriture, des envies d'écriture, qu'il a participé de plus en plus à Vertical, au point qu'il en est devenu le rédacteur en chef. Donc voilà, c'est un bel exemple, je trouve, de pluriactivité, peut-être plus original que ce qu'on a l'habitude d'avoir, effectivement, comme disait Philippe, guide en été, moniteur en hiver. Et donc, peut-être aussi que ça lui a donné une capacité, en étant dans ce milieu-là, d'avoir une réflexion sur, justement, ce métier de guide, ses évolutions, poser des questions sur ce qu'il est devenu ou ce qu'il est en train de devenir, les dérives éventuelles liées aussi à des faits de société. Donc, je pense qu'il a des choses intéressantes. Nous, on a appelé ça la mort du guide, la mort des guides, ce qui était un petit peu... Voilà, un peu la petite pique comme ça, parce qu'on aime bien avoir des titres un peu accrocheurs. Je pense que c'est pas si simple que ça. Donc Claude va vous en parler.
Bonjour à tous. Comme Dominique vous l'a expliqué, je ne suis pas né montagnard. Je le suis devenu. Je suis né à Dijon et puis... On a la chance en Bourgogne d'avoir quelques falaises notables, assez connues, et qui permettent aux jeunes Dijonnais de s'entraîner à la montagne. Et la Bourgogne n'est pas si loin des Alpes qu'on ne puisse pas assez vite s'y exercer. Donc, je suis devenu montagnard par passion, par intérêt. J'ai toujours observé le monde de la montagne avec beaucoup d'intérêt et d'amour. Et bon... Au terme de cette partie de vie qui m'a amené en montagne, donc j'ai été amené à faire effectivement pas mal de choses et des rencontres, en particulier nos amis de l'Alpe, Dominique Juliamy et Pascal Cobert. Alors, quand ils m'ont parlé de leur projet sur les métiers de la montagne dans l'Alpe, bon, on était bien installés dans un petit coin où on nous sert une bonne cuisine, comme Pascal a toujours le don de dénicher ces petites adresses. Et puis, en toute simplicité, on a commencé. Ils attendaient sans doute que je rentre dans mes habits de vieux guide, parce que je suis quand même un vieux guide. Hein. J'ai passé l'aspirant guide en 1978. C'était déjà un autre siècle, hein, quand même. On a commencé à énumérer un petit peu les nouveaux métiers qui étaient arrivés dans la vie des montagnards. Alors les montagnards, qu'est-ce que c'est qu'un montagnard? Souvent, on se contente d'appeler montagnard quelqu'un qui vit au pied des montagnes. Alors qu'à l'origine, un montagnard, effectivement, c'était quelqu'un qui vivait au cœur des montagnes, mais c'était surtout quelqu'un dont la vie était imprégnée de la montagne, rythmée par la montagne, qui est quand même un milieu très spécifique. Alors ces nouveaux métiers, on les énumérait tranquillement, c'était bien sympathique. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ces nouveaux métiers dont on parlait étaient des métiers qui étaient arrivés très très récemment. Ça tombait bien, je venais d'en découvrir un qui était fatalement sous mes yeux tous les jours d'hiver. Par exemple, aujourd'hui, il est hors de question de se promener avec un forfait épinglé à l'anorak, comme on a fait pendant des années. On a des forfaits à la carte automatique, on ne sort plus les mains des poches, c'est merveilleux. Ben, il faut des gens pour organiser tout ça. Donc il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans l'édition et la lecture automatique des forfaits. Ce qui fait que maintenant, aux remontées mécaniques, les gens vous font un beau sourire et n'interviennent qu'en cas de pépin de lecture de votre code-barre. Et au fil de la conversation, on s'est rendu compte que des métiers comme celui-là, ce n'étaient pas vraiment des métiers de montagnard. Des lectures de code-barre, on en fait partout. Et la plupart de ces nouveaux métiers, c'était en fait des métiers importés, des métiers qui venaient de notre société, de la ville, du commerce, de l'industrie. Et du coup, en quelques décennies, avec cette nécessité d'organiser le tourisme, la montagne, elle s'est vue colonisée par une culture urbaine qui est de plus en plus prégnante. C'est très visible et pas forcément vilain. Il n'y a pas longtemps, je me trouvais sur le versant sud du Beaufortin, là, ce fameux versant du soleil. Et puis en face, on a les stations de la Tarentaise, en particulier les Arcs, juste en face. Alors dans un premier temps, on se dit « Oh là là, on a fait des villes à la montagne, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et puis, au bout d'un moment, cette espèce d'urbanisation à partir d'une certaine altitude, cette façon dont on a sculpté la montagne, bah, finalement, ça a aussi son esthétique. Et puis, on est bien obligé de reconnaître que ça a amené une économie, une vie, une amélioration de la vie dans nos montagnes. Alors, du coup, à force de se dire que les nouveaux métiers, finalement, n'étaient pas des métiers de montagnard, on est arrivé à évoquer un mot qui est devenu un petit peu tabou depuis qu'on lui a mis un adjectif, l'adjectif national à côté, c'est l'identité. Alors, on va peut-être plutôt parler de culture que d'identité, donc celle des montagnards. Celle des montagnards, elle s'est donc diluée dans une façon de faire, d'organiser la vie professionnelle qu'on retrouve partout. On retrouve par exemple les mêmes recettes de marketing pour vendre des savonnettes ou pour vendre des forfaits de ski. Alors, il n'y a pas de raison, hein, les recettes marketing qui prévalent dans les supermarchés, pourquoi elles ne seraient pas aussi efficaces en ce qui concerne le tourisme de montagne? Simplement, il faut que ces règles, on arrive à les adapter, parce qu'on a rappelé tout à l'heure que la montagne, c'était quand même un milieu spécifique. Ce n'est pas un milieu urbain. La montagne, c'est un relief avec des climats, des réalités géographiques, géologiques. Et les montagnards d'avant ont toujours su les déchiffrer et leur obéir. Alors le problème, c'est que les nouvelles règles d'aujourd'hui, elles sont dictées par une nécessité qui fait loi dans tous les compartiments de notre société, c'est la rentabilité. Une station de montagne, c'est devenu une entreprise comme une autre. Et il faut au minimum qu'elle ne perde pas d'argent. Et au mieux, si elle peut en rapporter, c'est quand même pas mal. Surtout que les stations, maintenant, pour la plupart, sont intégrées à des grands groupes avec des actionnaires dont on connaît les espoirs de rentabilité. Alors du coup, pour rendre cet espace rentable, on s'est trouvé confronté à un problème de disponibilité de cet espace qu'on a dédié au tourisme. Il faut que la montagne elle soit accessible. Et la montagne, elle n'a pas toujours été accessible. Avant, bon, on n'avait pas le train pour arriver à Genève. Il fallait après prendre la diligence pour aller à Chamonix. C'était toute une histoire. Et puis, Aujourd'hui, à cette époque-là, les touristes étaient peu nombreux, mais aujourd'hui, on peut parler quand même à certaines périodes, en particulier au moment de la migration des hivernants, d'un tourisme de masse. Et il y a pas mal d'endroits où, quand même, les accès étaient soumis à des aléas, les routes coupées, en particulier, soit parce qu'il y avait trop de neige qu'elles étaient impraticables, soit même par des problèmes d'avalanche. La route qui mène de Chamonix au col des Montets, moi, quand je suis arrivé à Chamonix à la fin des années 70, elle était coupée en trois endroits, à l'avalanche de la pendant qui se trouve entre Chamonix et Argentière, c'est quand même pas loin, ça fait à 5 km du centre-ville de Chamonix, une fois à la sortie d'Argentière, l'avalanche de la Fize, et puis une fois au col des Montets. Le col des Montets, ça arrive encore de temps en temps, mais maintenant la SNCF est obligée d'ouvrir le tunnel du train pour que les voitures à heure fixe puissent quand même accéder à Valorcine. Et l'avalanche de la Fize ne tombe plus parce que le climat a changé, on a un petit peu moins de neige. Quant à l'avalanche de la Pendant, qui arrivait à couper la route, mais non seulement couper la route, c'était d'une telle violence que ça rebondissait dans l'Arve et ça allait remplir la galerie du train qui était en face et ça tordait comme le train à un rail au sol. C'est pas une alimentation électrique aérienne. L'avalanche arrivait à tordre le rail d'alimentation du train Chamonix-Martigny. C'est pour vous dire la violence de ces phénomènes. Alors, le train, il était rarement touché, mais quand même protégé. Par contre, la route, elle était souvent coupée. Il y a eu même des accidents, des voitures qui se sont fait emmener. Ça faisait partie des drames récurrents de la vallée de Chamonix. Fatalement, on ne pouvait pas laisser les choses en l'état parce qu'il y a la station des Grands Montets, Argentière qui commençait à grossir, etc. Donc, on a construit un magnifique paravalanche en béton. Et puis, ce paravalanche, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, c'est que quand la station des Grands Montets s'est développée, elle s'est développée sur la montagne de la Pendant, là où partait l'avalanche. Donc, du coup, on a mis des avalancheurs, les pisteurs sont occupés, toute la pente est skiée, l'avalanche de la Pendant, on n'en parle plus. C'est fini. Donc on a un bel ouvrage en béton qui ne sert plus à rien. Mais donc, cette montagne s'est retrouvée urbanisée et donc, dans notre perception de cet espace, il y a quelque chose de différent. On n'a pas l'habitude tellement de se poser la question de savoir, quand on est à Chamonix par mauvais temps, on ne se pose pas la question de savoir si on va pouvoir gagner Argentière pour prendre le téléphérique des Grands Montets, mais on se pose la question de savoir si le téléphérique est ouvert, parce que là, il reste quand même un domaine où la montagne reprend ses droits. Mais petit à petit, on prend l'habitude de cette facilité de circulation. Quand une route est coupée, d'ailleurs, quelque part, l'hiver, ça fait les gros titres à la télé, dans les radios, on dit, il y a les embouteillages du périphérique, et puis pour monter à Isola 2000, vous devez vous arrêter à tel endroit parce que la route est coupée, ou la même chose dans le haut de la vallée de Chamonix. Alors, les guides dans tout ça, est-ce que cette évolution que j'ai évoquée rapidement là, de l'espace montagnard les a touchés? On a envie de dire que non. Parce que les guides, ils vont en haute montagne. Et qu'en haute montagne, il n'y a pas de paravalanche. Mais on a déjà vu que certaines pentes sont réputées ne plus partir. Toute cette pente de la Pendant au Grand Montet, qui était un hors-piste assez engagé, assez délicat à gérer, parce que non seulement on y risquait l'avalanche, nous, mais de déclencher une avalanche énorme qui risquait d'aller jusque dans la vallée, cette pente de la Pendant, on la skie beau temps, mauvais temps. Elle est déclenchée la nuit automatiquement par les avalancheurs, ces gros tuyaux qui déclenchent une explosion d'air comprimé, de gaz comprimé, et qui vont provoquer la rupture de la couche neigeuse. Donc on skie tous les jours là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc finalement, l'espace sécurisé, il s'est aussi grandement agrandi pour les guides, pour les gens qui évoluent en haute montagne. Et puis, d'une façon parallèle, on a énormément d'astuces techniques qui nous aident énormément à, a évolué en montagne. Alors, on va pouvoir citer les GPS, les téléphones portables, les batteries solaires. Mais bon, la haute montagne, elle, effectivement, n'a pas bougé. Les guides, ils ont quand même été un peu bousculés par cette lame de fond qui a été assez brutale. Hein, depuis, on va dire, la fin des années 60, de l'arrivée de la société moderne, de la société urbaine en montagne. Alors au départ, les guides, c'était des paysans, des agriculteurs, des bûcherons, des chasseurs, des cristalliers. Ils vivaient en montagne, ils vivaient de la montagne avec la montagne. Ils étaient les seuls à vraiment connaître comment ça se passait. Pour les visiteurs, ils étaient surtout ceux qui vivaient là et qui connaissaient les chemins, qui allaient leur indiquer le chemin, qui allaient les conduire. Ce n'étaient pas des gens qui leur apprenaient à grimper ou qui essayaient de leur faire passer une bonne journée. L'origine du métier de guide, c'est de montrer le chemin. Mais quand même, il y avait déjà des pièges. Et ces pièges, ils les connaissaient par la tradition, par un savoir-faire ancestral. Les anciens, les générations, toutes les générations de chasseurs ou de cristalliers avaient identifié les endroits où les avalanches tombaient, ils avaient identifié qu'il y avait des avalanches. Il n'y a qu'à regarder dans toutes les vallées, les vieilles fermes. La plupart du temps, elles sont à des endroits que les avalanches ne touchent pas. Moi, j'ai vécu l'expérience dans la station de Flaine où j'ai travaillé pendant des années. Quand j'y suis arrivé, elle était encore assez récente. Et on avait un téléphérique qui était bâti au pied d'une pente. Et un beau jour, on était dans le téléphérique, on s'est retrouvé collé au plafond. Il y a eu une avalanche qui était tombée, qui était rentrée dans la gare. Les anciens ont dit, mais celle-là, on la connaît. Elle est déjà tombée en 1925. Il y avait des chalets transformés, bien évidemment, en restaurants d'altitude qui étaient à 40 mètres de la gare du téléphérique. Ils n'ont jamais vu une avalanche. Simplement, quand les gens sont arrivés pour construire cette station, ils n'ont pas pris le temps de demander aux anciens ce qu'il fallait faire. Bon, c'est une avalanche qui a quand même été dramatique puisqu'il y a eu un mort et deux blessés, des gens du personnel des remontées mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a construit des paravalanches, comme d'habitude. Le problème est réglé, maintenant. Alors, nos anciens, eux, qui savaient mettre les fermes là où les avalanches ne descendaient pas, ils savaient aussi qu'en montagne, de temps en temps, il ne fallait pas y aller. La montagne, de temps en temps, elle ferme ses portes. On a un petit peu tendance, aujourd'hui, pour des tas de raisons, à l'oublier. On l'oublie pour pas mal de raisons. À l'origine, le guide, c'était un pluriactif, comme disait Philippe tout à l'heure. Donc, c'était un agriculteur, la plupart du temps, qui tirait de ses activités de guide un revenu complémentaire, qui était notable, d'ailleurs. La clientèle était très aisée, en général des Britanniques de la bonne société. Elle retenait le guide pour toute une période, 15 jours, 3 semaines, et on partait de Chamonix à pied pour aller à Zermatt. On repassait le col du Grand Saint-Bernard pour faire quelque chose à Courmayeur. Et puis, ma foi, la période se passait comme ça. Les clients se repassaient les guides. Beau temps, mauvais temps, le guide était payé. Largement, en général. Donc, une journée de mauvais temps ou une tentative quelque part, une montagne en mauvaise condition, ça n'avait pas d'incidence sur le revenu du guide. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile parce que les temps ont changé. Le guide est soumis à des contraintes du fait de son intégration à la société. La plupart du temps, c'est une monoactivité. Même si elle présente pas mal de facettes, il y a des tas de gens. La plupart des guides sont guides à 100% les 12 mois de l'année. Donc, ils doivent tirer leur revenu de leur activité de guide. Et puis, ils ont, comme tout le monde, des assurances professionnelles et des assurances sociales, des cotisations, retraite, etc. Ce que tout le monde connaît. Ce qui n'existait pas, évidemment, au temps des guides paysans, où la sécurité est organisée par la société paysanne elle-même avec ses règles de solidarité, d'où sont nées, en particulier, les caisses de secours des vieilles compagnies de guides et ce fameux tour de rôle qui préside au partage du travail disponible. Alors qu'aujourd'hui, Ben, les guides ne sont pas engagés 3 semaines, 1 mois par des riches anglais. Les riches anglais, c'est les traders de la City. Ils font maintenant des week-ends allongés, ils appellent ça. C'est 3 ou 4 jours, Londres-Londres. Ils arrivent en avion à Genève. L'hélicoptère ou un minibus rapide les emmène en station. Et hop, on met les pieds sur les skis, on y va, on se gave. Et la prestation qui est vendue par le guide, ce n'est pas 3 semaines d'accompagnement à travers les montagnes. C'est tel hors-piste le samedi, tel hors-piste le dimanche et tel hors-piste le lundi. Aller apprendre à ces gens pressés que non, décidément, samedi, on ne pourra pas et qu'on ne sait même pas ce qu'on va arriver à faire, ça ne passe pas bien du tout. Il y a quand même une pression de la clientèle qui est difficile à contrer. Alors, pour suivre, on va dire même pour survivre, les montagnards se sont lancés dans une espèce de course à l'armement. Alors, quand on part en hiver, maintenant, on a l'Arva, la pelle, la sonde. Ça fait un moment. Maintenant, on a des ballons qui font office de bouée de sauvetage. Au cas où on serait pris par une avalanche de poudreuse, ça se déclenche tout seul dans le dos et puis on est censé pouvoir nager. On a même également des systèmes qui nous permettent de respirer si on est enseveli. Enfin, ça devient quelque chose d'invraisemblable. Il faudrait, pour s'amuser un peu, mettre des têtes de canard sur les bouées de sauvetage qu'on nous livre à prix d'or. On a même des méthodes complexes d'analyse du risque. C'est assez efficace. Ça prend un temps fou, alors qu'avant, il suffisait d'observer de vieilles règles. Hein. Il y en a une dont on a parlé un petit peu, c'est Anselme Beau, qui a été pendant très longtemps professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme, et qui est un grand skieur, qui a dit, mais attendez, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on attendait 3 jours avant d'aller skier les pentes réputées dangereuses après une période de mauvais temps. Aujourd'hui, on ne se pense même pas à la question. On prend tout le bazar et puis on y va. Alors, quelquefois, on ferait bien de regarder un petit peu comment évoluaient nos anciens. Surtout qu'on peut prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour nous donner un petit coup de main en cas de pépin. Ça n'empêche pas le pépin. Sur un circuit de F1, vous pouvez mettre toutes les protections gonflables que vous voulez dans un virage, ça n'empêchera pas les sorties de virage. L'autre conséquence de cette irruption de l'urbanisation dans nos sociétés montagnardes, c'est que les activités traditionnelles, la randonnée, l'alpinisme, l'escalade, le ski, sont devenues un peu ennuyeuses. Premièrement, la plupart d'entre elles demandent un apprentissage, donc c'est un peu trop long. Les vacances, les séjours sont de plus en plus courts, on n'a plus le temps d'apprendre. Donc, les professionnels du tourisme en montagne ont cherché à dynamiser un petit peu les activités. Et ça a donné l'invention de quelques activités nouvelles, comme la descente de canyon, la via ferrata, ou même, alors ça c'est un truc fabuleux, c'est les parcs aventures. C'est extraordinaire, cette expression de parc aventure. Il y a quand même quelque chose d'assez amusant dans la collision d'un parc et d'une aventure. Mais bon, ça marche très bien et ça fait vivre pas mal de montagnards, c'est très bien. Ces activités sont aussi perçues comme plus ludiques que ces activités traditionnelles. On rigole, on est en bande. Hein. Après, qu'est-ce que ça signifie pour le guide ? Ça signifie des parcours aménagés, des gestes toujours répétés. On fait de la via ferrata. Une fois qu'on a vérifié que le client il a mis correctement son baudrier, on a des échelles, des câbles. Bon, on suit un sentier aménagé. Moi, ça m'a toujours rappelé. Bon, c'est pas un secret, j'ai horreur de ça. Hein. Je trouve ça répétitif, ennuyeux au possible. Mais bon, si les gens s'amusent dessus, tant mieux pour eux. Mais moi, ça m'a toujours rappelé des travaux acrobatiques que j'avais détestés. J'étais parti repeindre des pylônes France Télécom dans l'ouest de la France. Ça faisait 90 mètres de haut. Et puis, ma foi, c'est des espèces de tours Eiffel, quoi, avec une échelle et puis un truc, une espèce de protection cylindrique métallique pour nous empêcher de descendre trop bas si on rate un échelon. La via ferrata, ça me fait tout à fait penser à ce genre d'univers. Mais bon, je ne vais pas trop critiquer. Alors, ces, ces activités, elles ne sont pas très excitantes pour un montagnard passionné, mais bon, c'est vrai que c'est d'un excellent rapport. Hein. La météo, elle a une incidence quand même moins importante que quand on va faire ne serait-ce que le Mont Blanc ou la Pitte Verte. Donc, on assure la saison bon an mal an, ça se passe bien. Et puis, bon, c'est vrai que le business est rarement freiné ou stoppé par les conditions météo. Il faut vraiment que ça aille mal, quoi. Il faut qu'il y ait un orage pour qu'on arrête d'aller en Via Ferrata, parce que, quand même, ça fait un peu paratonnerre, ces histoires-là, donc on évite. Mais enfin, bon, si les gens sont un peu rustiques, il peut faire froid, ça peut même être un peu mouillé, ça passe quand même, c'est pas un problème, hein. Alors, du coup, simplement pour la profession, alors c'est tout à fait normal que de nombreux guides se soient engagés dans cette voie, dans cette nouvelle voie qui leur apporte pas mal de revenus. Le métier a beaucoup changé. Ça fait des horaires fixes, une fatigue quand même réduite. La prise de risque, elle est minime. La responsabilité, donc, elle est moindre. Et puis la journée, elle est tranquille, hein. On ne démarre pas trop tôt. Il n'y a aucune raison de se lever la nuit pour aller faire une Via Ferrata qui représente 2 heures d'effort ou un canyon qui représente, pareil, 1h30, 2 heures d'effort. Donc on va attaquer vers 9h parce que les gens sont en vacances, on les équipe, on les déguise, on leur met un casque de couleur, on leur met une combinaison, ils sont contents, ils se prennent pour Nicolas Hulot. Et puis on fait la petite activité en question, on rentre, on range le matériel. On prend les inscriptions pour le lendemain, on encaisse d'avance, parce que ça valide l'inscription. Et puis, on ferme le bureau, on a rangé tout le matos, on va à l'apéro au bistrot du coin avec les copains, et puis on rentre chez soi, puis on peut regarder le journal de 20h. L'été, il se passe comme ça. Alors, c'est vrai que les guides post-68 heures dans mon genre, qui ont débarqué avec des rêves d'alpinisme plein le sac à dos, quand ils partent, ils ont fait une journée, ils se sont levés à 1h ou 2h du matin, c'est le taf pour faire tout bêtement le Mont Blanc, hein. Et puis qu'ils sont rentrés en fin de journée, et puis qu'ils ont perdu pas mal de kilos et pas mal de neurones parce que les clients n'étaient pas bien à l'aise sur l'arrêt de terminale et qu'ils se sont fait un petit peu peur, ils se sont demandé comment ça se terminerait si jamais le client s'en mêlait les crampons, ils se trouvent un petit peu seuls, ils font un peu des dinosaures. Surtout qu'il y a une nouvelle donne qui s'est imposée depuis une bonne dizaine d'années. C'est qu'un pépin en montagne, au-delà du drame que ça représente toujours, aujourd'hui, c'est des sacrés ennuis. Moi, je me souviens, au milieu des années 90, je me suis retrouvé avec un client qui a été frappé de sciatique paralysante au sommet du Chardonnay. C'était un bon alpiniste. On avait fait l'éperon Migaud, qui n'est pas une voie extrême, mais quand même une voie déjà technique. Et dans les dernières laies de la pente terminale, il m'a dit « Oh là là, j'ai un problème, je suis obligé de... Au relais, ça ne va pas, il faut que je bouge, sinon je vais être paralysé. » Ah, bonne nouvelle. Bon, au sommet, on ne s'est pas arrêté. Il m'a dit « Il ne faut absolument pas qu'on s'arrête. » On a attaqué la descente. La descente était raide au début, donc je l'ai descendu un peu en moulinette. Il arrivait encore à bouger. Mais quand on est arrivé sur le glacier et qu'il fallait vraiment qu'il marche debout comme ça, c'était impossible. Bon, quelle solution ? Appeler l'hélicoptère. On a appelé l'hélico. C'était une maladie. Ben, je ne vous dis pas, le sale quart d'heure que j'ai pensé à l'interrogatoire, à la sortie de l'hélico, à la DZ des bois, hein. C'était déjà assez tendu. Et ce n'était pas un accident, je n'avais pas fait d'erreur, etc. C'était déjà très, très désagréable. Alors j'imagine ce que peuvent vivre mes collègues qui se trouvent confrontés à une situation d'accident. Ça doit être vraiment terrible. Alors, vis-à-vis de nos autres collègues, ceux qui sont, on va dire, un peu rangés des voitures, qui font une activité où le risque est quand même moindre, on a quand même un petit peu, on se sent un peu mal à l'aise parce que des accidents, donc ça se termine avec des jugements et des indemnités. Et par exemple, bah, trop d'accidents, c'est une prime d'assurance qui monte pour le Syndicat national des guides, des fois obligé de changer, de chercher un autre assureur, ça devient très très difficile. Et nous, les guides alpinistes, on ne se trouve pas très, très à l'aise parce que si jamais, en continuant à exercer ce métier de façon traditionnelle, on prend un risque pour toute la profession. Alors, c'est comme ça qu'un jour, on a entendu un responsable du Syndicat national des guides déclarer en public que certaines voies devraient être interdites aux guides. Par exemple, il citait l'arête de Coste Rouge à l'aile froide. Bon, c'est pas du très bon rocher, mais enfin, c'est quand même une voie classique qui a été répétée de nombreuses fois. Et elle a été ouverte en 1913 par un guide italien qui s'appelait Angelo Di Bona, dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il guidait un client. Alors, si on ne peut même pas répéter des trucs ouverts en 1913 par les guides de l'époque, effectivement, il faut qu'on arrête de mettre deux hautes montagnes derrière le mot guide. Alors, quand on parle comme ça, on se demande un petit peu, est-ce que le guide peut être encore guide de haute montagne ? Est-ce qu'il est encore un montagnard ? Alors, il ne s'agit pas de en posant cette question, de créer des catégories et de dresser les guides alpinistes, les guides montagnards contre les guides qui, eux, ont choisi une activité un petit peu plus lucrative, régulière et sûre. Mais toujours est-il que cette situation, elle existe. On n'en parle pas beaucoup, mais elle existe. Alors, c'est vrai que quand on parle de guide montagnard, contrairement à Philippe qui regardait vers l'avenir, on regarde plutôt dans le rétroviseur. Alors, il ne faut surtout pas uniquement parler de culture montagnarde sur le mode de la nostalgie ou des regrets. L'espace montagnard, et il n'a pas vécu replié sur lui-même, et il est hors de question qu'il le fasse. Même chez les gens qui sont des montagnards passionnés, enracinés, ça ne se passe pas comme ça. Je me souviens de... Je travaillais déjà dans l'orbite de Dominique à Vertical, quand un phénomène qu'on connaît tous aujourd'hui a débarqué dans nos vies, ça s'appelle Internet. À l'époque, j'ai été complètement étonné de voir la vitesse à laquelle la culture Internet s'était propagée chez les alpinistes. Tout d'un coup, en 2-3 mois, on était tous connectés au monde entier. Si on regarde d'un autre côté, historiquement, la façon dont s'est organisée la profession, l'Union internationale des guides de montagne a été créée en Europe il y a bientôt 50 ans, en 1965, je crois. Déjà, les guides, à l'époque, dans les différents pays de l'arc alpin, c'était posé la question d'harmoniser les formations. Il fallait qu'un guide formé en Suisse soit formé de la même façon qu'un guide formé en France, et le même niveau qu'un guide allemand ou autrichien ou italien, ce qui nous permettait déjà, ce qui était la réalité du métier, mais il fallait quand même poser les choses, de pouvoir travailler dans les différents pays européens. Maintenant, c'est carrément mondial, international. Ces exemples montrent que le grand écart entre la culture de la montagne et le modernisme, il est complètement possible. Je voulais terminer par un tout petit exemple de ce que je vous invite à regarder. C'est une petite vidéo qui a été faite par des jeunes de la vallée du Giffre, qui a été postée il y a 2 ans, je crois. Vous tapez « Sixt, it's my ghetto ». C'est un rap, ça dure 5 minutes, c'est assez bien fait. Et en fait, ils racontent leur vie. Ils racontent le côté campagnard, le fait que quand il n'y a plus de touristes l'hiver, il n'y a plus de ski. Il y a des skibus tout l'hiver. Il n'y a plus de bus. Il y a des skibus tout l'hiver. Mais dès que les skieurs sont partis, les gamins, s'ils n'ont pas de moyens de transport, ils restent dans leur bled. Le manque d'activité culturelle. Les Anglais qui achètent des fermes à prix d'or et qui bâtissent des jacuzzis dehors, luxueux. Et puis, d'un autre côté, à côté de cette espèce de désert traditionnel de vie campagnarde, ils montrent la belle vie qui mène là-haut. Il y a une scène sur laquelle on va finir. Là. Vous avez une équipe de jeunes très, très moderne, avec le bonnet jusque-là, les pantalons tout larges, les pantalons de nain de jardin. Ils ont le snowboard, ils sont sur le plateau des Platières à Flaines, et puis ils sont en train de scander « It's my ghetto !» Et ils se retournent, et il y a le Mont Blanc. C'est notre vie, à nous les montagnards.
Bon, quelque chose d'un petit peu pessimiste jusqu'à un certain point, mais qui se termine quand même. Et c'est vrai que cette vidéo est assez amusante, honnêtement. On n'entend pas toujours très bien, mais c'est plutôt drôle. Bon, donc on a pris un petit peu, on avance un petit peu, mais alors je viens d'apprendre également qu'il y a un deuxième intervenant qui ne pourra pas être là, c'est Monsieur Pocard, qui est donc paysan alpagiste. Et alors, pour une raison qui prouve bien quand même les contraintes de la montagne, il est bloqué dans la neige, il s'est trouvé bloqué dans la neige, en alpage par la neige. Donc comme quoi, malgré toutes les technologies modernes et autres, Internet et compagnie, eh bien la montagne reste ce qu'elle est, donc ce qui est plutôt malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous, parce que je pense que c'était très intéressant d'avoir le point de vue d'un alpagiste. Effectivement, c'est quelque chose dont on n'avait pas parlé, mais c'est aussi un métier qui existe, et c'est un métier qui est évidemment en lien aussi avec le tourisme, de plus en plus, avec le tourisme doux, le tourisme vert, avec cette demande. D'ailleurs, maintenant, il y a des gîtes à l'alpage. Enfin bon, donc c'est vrai que c'est aussi une piste de métier plus réactif ou même uniactif, mais qui est assez intéressante. Donc ça aurait pu être bien. Mais quelque part, eh bien, c'est aussi... ça rappelle que la montagne n'est pas... reste un univers un petit peu... sans être dangereux, mais un univers libertaire. La neige s'est invitée sans qu'on lui demande rien. Et voilà. Donc là, nous allons faire une petite coupure de parole. Donc on va vous passer dans l'Alpe. Nous avions choisi de faire un portfolio avec les images, les diptyques plus exactement, d'un photographe tyrolien qui s'appelle Loïs Eckenbleichner, et qui donc est né dans la vallée de l'Alpbar, donc dans le Tyrol côté autrichien, puisqu'il y a le Tyrol du Sud, donc ça c'est dans le Tyrol autrichien. Il est né en 58. Il se trouvait un petit peu coincé dans sa vallée. Lui, il trouvait que franchement, en montagne, on était un peu comme ça, contraint. Donc il en est parti assez jeune, mais il a connu aussi l'alpage. Lui, il a connu la vie traditionnelle. Son père avait un alpage. Et puis, il est parti dans des pays plutôt orientaux, où il a fait des reportages photographiques, etc. Et il est revenu quelques 20 ans plus tard, et tout d'un coup il s'est dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai été chercher l'exotisme au bout du monde, mais l'exotisme il est là, parce que tout d'un coup il a eu beau connaître le début des années 60, et donc le changement, l'arrivée du ski, l'arrivée de tout ça, il y avait des choses qui s'étaient passées très rapidement. Et en même temps, il a découvert les archives d'un ingénieur agronome, Armin Knili, qui avait fait des photos, qui avait été chargé par le, je ne sais plus quel ministère autrichien, de faire une collecte en fait photographique de la vie traditionnelle, grosso modo entre les années 30 et tout à fait le début des années 60. Donc des photos en noir et blanc, qui montre effectivement un Tyrol, enfin même une montagne, avec bon, les spécificités tyroliennes, autrichiennes certes, mais disons la vie des Alpins tout à fait traditionnelle. Et puis, donc du coup, il s'est dit, j'ai envie de faire quelque chose autour de ça. Et ce n'était pas seulement faire du avant-après. Donc il y a un travail, un regard par rapport aux gestes, entre ces gestes traditionnels, comme planter des pommes de terre, comme couper le foin, comme aller prier la Madone, se rassembler ou faire rentrer les bestiaux dans un chalet d'alpage, et ce qui se passe actuellement dans notre société de loisirs. Donc c'est vrai qu'il a certainement forcé le trait à certains moments par rapport à cette société de loisirs, mais il a joué beaucoup sur l'aspect visuel, sur essayer de mettre des gestes en parallèle, donc dans un système de deux photos, donc droite-gauche. Il en a fait un livre d'ailleurs qui s'appelle, alors ça existe en anglais, Off-Piste, et je trouve que l'original en allemand dit plus, parce que c'est Hinter den Bergen, qui veut dire derrière les montagnes, donc un peu la face cachée de la chose. Et alors ce que je trouve intéressant par rapport nous à notre propos de métier, c'est qu'on voit Deux, alors on voit évidemment les paysans qui travaillent, donc c'est leur métier, c'est leur vie, et comme ça. Et dans le tourisme, on voit peu de gens travailler. On voit plus les touristes, on voit plus... Et on imagine beaucoup, on est beaucoup plus obligé d'imaginer ceux qui sont derrière à faire tourner cette machine touristique. Alors évidemment, on sourit parce qu'il y a des gestes, des trucs, ça fait un peu... voilà. Donc on va vous passer ça. Je vais demander au monsieur qui est à la régie là. Merci bien. Alors évidemment, c'est peut-être un peu pour les féministes, c'était pas terrible cette image. Alors voilà, les pommes de terre d'un côté et les balles de golf par ailleurs. On peut se poser des questions. Était-il plus dur de ramasser le foin que de ramasser les papiers? Et les Tyroliens ont-ils gagné au change, hein, entre les deux? Là, on voit effectivement des gens qui travaillent, là, cette fois. De l'utilisation de la vache. Alors, c'est sûr que le folklore touristique en prend un coup aussi. Dans ce regard quand même pas mal ironique. Bon, alors celle-ci, on l'avait... On a quand même... les femmes de la rédaction ont refusé de mettre cette image dans le portfolio. Mais bon, quand même, on pouvait pas vous la... On pouvait pas la passer outre quand même. Alors celle-ci, on la voulait, mais c'est les hommes de la rédaction qui étaient assez contre, par contre, en revanche. Donc... Il y a beaucoup de golfeurs dans cette histoire. La femme n'est pas plus qu'elle était, dirait-on. Bon, quand même, le clin d'œil final. Alors, je vais juste préciser quand même, on a l'impression parfois que c'est posé quand il y a des gens, des attitudes, et pas du tout. J'ai été en contact avec Loïs Eckenbleichner, et il m'a bien assuré qu'il n'y avait à aucun moment, bon, quand il a pris des portraits comme ça, mais il n'y a pas eu vraiment une volonté chez lui de prendre une photo ancienne, par exemple, je ne sais pas, celui qui décharge son... et de demander, par exemple, au skieur de